VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington, Chérubin Dorsil et Morgane Guiriec.
Bonsoir à tous et bienvenue à cette édition du vendredi 1er avril 2016. Au sommaire ce soir...
Au Tchad, la société civile hausse le ton pour réclamer la libération de ses leaders emprisonnés. Elle cesse de participer aux instances gouvernementales.
Nous sommes Bayonnais, nous avons décidé de suspendre nos participations et nous disons que la marche du 5 avril est maintenue.
Un nouveau cas d'Ebola a été identifié au Libéria, plus de 2 mois après la proclamation officielle de la fin de la transmission du virus dans ce pays.
Afrique du Sud, après le verdict de la Cour constitutionnelle, est-ce le début de la fin pour Jacob Zuma ?
C'est vraiment entouré des gens qui l'appuient à 100%, mais je pense que c'est une étape très importante par rapport à son maintien au pouvoir.
La présidente de la Commission de l'Union africaine annonce qu'elle quittera son poste en juillet prochain.
La lutte contre les djihadistes du groupe État islamique au centre de la deuxième journée de la conférence de Washington sur la sûreté nucléaire.
Dans moins de 10 minutes, l'économie et les sports, mais d'abord le journal.
Nous ouvrons au Tchad où les organisations de la société civile décident de suspendre leur participation dans toutes les instances gouvernementales. La marche pacifique prévue pour mardi est également maintenue. L'annonce a été faite ce midi à la Bourse du Travail pour protester contre la détention de 4 de leurs dirigeants. On écoute Gunung Vaima Gangfare, secrétaire général de l'Union des syndicats du Tchad et porte-parole de la plateforme « Ça suffit ».
Tenant compte de tout ce qui s'est passé depuis le 23 jusqu'à aujourd'hui et principalement la reconduction de nos camarades hier à la maison d'arrêt d'Amsinene, nous, société civile, décidons aujourd'hui le retrait de tous nos représentants des organes cités ci-après. Le CNDP, la CENI, l'ITIE, le Collège de contrôle et de surveillance des revenus pétroliers, le Conseil économique et social et le HCNC. Nous disons que l'attitude du gouvernement ne nous permet plus de collaborer avec ceux-là, puisque nous sommes Bayonnais, nous avons décidé de suspendre nos participations et nous disons que la marche du 5 avril est maintenue. Nous avons respecté les principes, nous avons demandé au ministre et il a trouvé nécessaire de refuser cette marche. Mais nous disons que la marche est maintenue pour le 5 avril 2016. Que chacun de nous prenne ses dispositions et que c'est un message fort que nous allons annoncer au gouvernement.
Gunung Vaima Gangfare, N'Djamena.
Nouveau coup de théâtre au Gabon, à l'approche de la présidentielle. 9 députés du parti au pouvoir ont démissionné de l'Assemblée nationale aujourd'hui. Ces frondeurs du parti démocratique gabonais disent ainsi réagir à l'exclusion du parti de 3 députés. Sanction qu'ils jugent arbitraire et en violation des procédures disciplinaires prévues par le règlement de l'Assemblée nationale. Rappelons que l'élection présidentielle est prévue pour le second semestre 2016. Le président Ali Bongo, nous l'aurons dans la partie magazine pour répondre aux accusations sur sa nationalité d'origine.
En Centrafrique, la sécurité est loin d'être rétablie à l'intérieur du pays. Avant-hier, peu après l'investiture du président Faustin Archange Touadéra à Bangui, des hommes ont jeté des grenades dans une buvette de Bambari, faisant au moins 1 mort et 10 de blessés. Le général Joseph Zundeko fait le point à Bambari.
Dans les environs de 18h, c'était le 33e mois de 2016, nous avons enregistré une attaque à grenade dans une buvette de parking qui faisait 14 blessés dans 1 mort. Puis ce sont des civils humanitaires, ce sont ceux qui travaillent pour le cadre de l'humanitaire, puisque tout le monde se distrait là, dans cette petite buvette-là, à chaque 18h. Il y a de manger. Il y a un gendarme aussi qui a été blessé parmi les victimes. Jusqu'à présent, on ne connaît pas exactement les auteurs de cette attaque, mais on a parlé de 2 personnes qui se transportaient à bord de motos, arrivées jusqu'au lieu. Ils ont jeté ces grenades. Comme il faisait déjà nuit, personne ne pouvait les identifier.
Le général Joseph Zundeko à Bambari en Centrafrique.
Et au moment où casques bleus et soldats français en Centrafrique sont plongés dans un nouveau scandale d'abus sexuels, l'ONU réaffirme sa détermination à lutter contre de tels abus. Parmi les mesures envisagées, l'enregistrement de tests ADN avant le déploiement des soldats, qui permettrait notamment de faciliter les tests de paternité en cas d'accusation.
Crise au Burundi, le Conseil de sécurité de l'ONU est appelé à voter très bientôt une résolution proposée par la France. Elle viserait à préparer le terrain à une présence policière onusienne chargée d'apaiser les violences dans ce pays. Jacques Aristide.
L'ébauche de cette résolution préconise des pourparlers entre le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, et le gouvernement burundais, avec la participation de l'Union africaine, sur une présence policière internationale au Burundi, des pourparlers qui devraient permettre au Conseil de sécurité d'avoir des options dans un délai de 15 jours. D'après le texte, cet éventuel déploiement aiderait à accroître la capacité des Nations Unies à suivre la situation sécuritaire, promouvoir le respect des droits de l'homme et à faire avancer l'état de droit. Les violences désormais armées au Burundi et qui découlent du troisième mandat controversé du président Pierre Nkurunziza ont déjà fait plus de 400 morts et poussé plus de 250 000 personnes à quitter le pays en un an.
La présidente de la Commission de l'Union africaine, la sud-africaine Nkosazana Dlamini-Zuma, ne briguera pas de second mandat et quittera son poste à la tête de l'organisation panafricaine en juillet, au terme d'un mandat de 4 ans, au bilan mitigé. John Lyndon.
Les candidats à la tête de l'Union africaine avaient jusqu'à hier soir minuit pour se manifester. Nkosazana Dlamini-Zuma n'a pas présenté de candidature. Elle ne briguera donc pas un second mandat. Son successeur sera désigné lors du prochain sommet de l'Union africaine en juillet prochain à Kigali. Parmi ses possibles successeurs, le nom du ministre algérien des Affaires étrangères et ancien commissaire de l'Union africaine pour la paix et la sécurité, Ramdan Lamra, a longtemps circulé. Les pays de l'Afrique australe entendent toutefois conserver la présidence de la Commission et ont avancé le nom de la ministre des Affaires étrangères du Botswana, Pelonomi Vinson Mwatwa. L'Union africaine ne dévoilera officiellement les noms des candidats retenus qu'à la mi-avril. S'agissant de la possible candidature à la présidence sud-africaine, Nkosazana Dlamini-Zuma, 67 ans, est cité comme un des candidats potentiels de l'ANC, le parti du président Jacob Zuma, son ex-mari, actuellement mêlé à plusieurs scandales.
Boko Haram va poursuivre ses activités sous les ordres de son leader Aboubakar Shekau, c'est du moins ce qu'indiquent les djihadistes nigérians dans une vidéo postée sur le site YouTube. Le chef de Boko Haram, l'air affaibli, avait pourtant annoncé que sa fin était proche dans une précédente vidéo postée il y a une semaine. La vidéo postée aujourd'hui indique le contraire. À noter toutefois qu'Aboubakar Shekau n'y figure pas et que c'est un homme dont le visage est entièrement recouvert d'un chèche noir qui s'exprime.
Épidémie d'Ebola, un nouveau cas a été identifié au Libéria plus de 2 mois après la proclamation officielle de la fin de la transmission du virus dans ce pays. Et c'est ce qu'annonce le ministère de la Santé et l'OMS.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La menace d'un acte de terrorisme nucléaire perpétré par les djihadistes continuait de planer sur la communauté internationale malgré les efforts internationaux pour la contrecarrer. C'est ce qu'a déclaré le président Barack Obama aujourd'hui à Washington, où se termine le sommet de 2 jours sur la sûreté nucléaire. Idrissa Seloudia.
Le spectre d'un attentat terroriste nucléaire au moyen d'une bombe sale entre les mains de djihadistes entre les travaux à ce sommet international. Pour le président Obama, le risque a été sensiblement réduit, mais il persiste et continue d'évoluer. M. Obama a cependant souligné que grâce aux efforts mondiaux, aucun groupe terroriste n'a réussi jusqu'à présent à acquérir une arme nucléaire ou une bombe sale faite de matériaux radioactifs. Simultanément, M. Obama a rappelé qu'Al-Qaïda avait longtemps cherché à s'emparer de matériaux nucléaires et que des individus impliqués dans les attentats de Paris et de Bruxelles avaient filmé par vidéo un responsable officiel d'une infrastructure nucléaire.
En marge du sommet, le président Barack Obama a tenu aujourd'hui une réunion avec les dirigeants du groupe 5+1, signataire de l'accord sur le nucléaire iranien. Il s'agit de la Chine, la Russie, la Grande-Bretagne, la France, les États-Unis, plus l'Allemagne. Lors de cette rencontre, Barack Obama a prévenu qu'il faudra du temps à l'Iran pour s'intégrer à l'économie mondiale, alors que Téhéran se plaint de la lenteur de la levée concrète des sanctions internationales à la suite de l'accord. Et l'Iran a souligné dernier, le président américain a déjà commencé à tirer les bénéfices de cet accord historique, signé en juillet 2015 et mis en œuvre depuis janvier.
L'Arabie saoudite ne gèlera pas le niveau de sa production de bout, en tout cas pas si les grands producteurs, dont l'Iran, font de même, a indiqué le vice-prince héritier du premier exportateur mondial de pétrole dans une entrevue à Bloomberg News publiée aujourd'hui. Ces déclarations interviennent avant une réunion à Doha le 17 avril des pays producteurs de brut, membres ou non de l'OPEP, l'organisation des pays exportateurs de pétrole, pour tenter de stabiliser la production et soutenir les prix du brut plombés par une surabondance de l'offre.
La justice militaire israélienne a ordonné que le soldat accusé d'avoir achevé d'une balle dans la tête un assaillant palestinien blessé et à terre soit transféré d'une prison militaire à sa base où il sera mis aux arrêts, a indiqué l'armée. Le cas du soldat divise profondément les Israéliens entre ceux qui plaident pour le respect par l'armée des valeurs éthiques comme l'usage proportionnel de la force et ceux qui au contraire défendent bec et ongles le militaire en justifiant son acte par la multiplication des attaques palestiniennes. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est la Minute Éco avec Nathalie Barge.
L'autorité de régulation des télécommunications de Côte d'Ivoire a décidé du retrait définitif des licences de 4 opérateurs de téléphonie mobile. Il s'agit des opérateurs libanais Comium, libyen Green Network, émirien Warid Telecom et de l'ivoirien Café Mobile en cessation d'activité. Selon l'RTCI, ces opérateurs ont refusé d'opérer une fusion proposée en 2015 par le gouvernement, affirmant qu'ils ne représentent que 6% du marché. La Banque mondiale débloque 50 millions de dollars pour le tourisme au Bénin. L'exploitation du potentiel touristique permettrait une contribution directe au PIB de 30% et la création de 30 000 emplois au Bénin, a déclaré Pierre Laporte, directeur des opérations pour 5 pays d'Afrique de l'Ouest. La deuxième édition de la mission Action Lumière aura lieu du 3 au 8 avril au Mali, au Cameroun et au Togo. Organisée par Maroc Export et la Fédération nationale de l'électricité, elle vise à partager l'expertise marocaine en matière d'électrification. En termes d'énergie renouvelable, le complexe solaire Nour Wer Zazat vise au développement d'une capacité minimale de 2000 MW d'ici 2020 à travers d'autres projets de ce type sur des sites qui présentent des caractéristiques adaptées.
Voilà pour la Minute Éco. Merci Nathalie.
L'actualité sportive nous est présentée ce soir par Tatiana Mosso. Bonsoir Tatiana.
Bonsoir Gabi.
L'actualité du football européen, le choc de ce week-end, c'est un Barça-Real.
Exactement, les filets en tremblent déjà pour cette 31e journée du Classico entre le FC Barcelone et le Real Madrid, samedi à 18h30 GMT. Les 5 premiers du classement des buteurs du championnat d'Espagne de Cristiano Ronaldo à Karim Benzema en passant par le MSN, Blaugrana, Messi, Suarez, Neymar. Le défenseur français Raphaël Varane, lui, touché lors du rassemblement de l'équipe de France ces derniers jours, sera forfait pour le Classico, a fait savoir l'entraîneur madrilène Zinedine Zidane. En Allemagne, 28e journée, le Bayern sous la pression de Dortmund, malgré l'imminence de son quart de finale de la Ligue des Champions contre le Benfica, le Bayern Munich ne peut pas se relâcher en championnat d'Allemagne et devra absolument l'emporter face à Francfort samedi, car Dortmund maintient la pression. Manchester City a annoncé vendredi le retour dans le groupe de Kevin De Bruyne, vendredi en vue du déplacement à Bournemouth samedi, à 4 jours seulement du quart de finale aller de la Ligue des Champions contre le PSG. Samir Nasri sera présent, au contraire de Joe Hart et Yaya Touré.
Et pour le prix Marc-Vivien Faure, on connaît les 11 joueurs nominés.
Exactement, c'est la dernière liste des 10 nominés pour le prix Marc-Vivien Faure du meilleur footballeur africain de Ligue 1, décerné le mois prochain. Les membres du jury auront à choisir parmi les 11 joueurs présentés par poste, le nouveau successeur d'André Ayew.
Parlons athlétisme et la suite dans les affaires de dopage, Tatiana.
Évidemment, le Kenya risque d'être privé des Jeux Olympiques de Rio qui auront lieu en août si sa nouvelle législation antidopage n'est pas adoptée avant la date limite fixée par l'Agence mondiale antidopage, l'AMA, a prévenu le Comité national olympique kényan.
Voilà pour les sports. Merci Tatiana et bon week-end.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Morgane Diriek et Chérubin Dorsil en votre compagnie, place au dossier du jour. Première escale ce soir, Libreville.
Au Gabon, 9 députés frondeurs du Parti démocratique gabonais, le parti au pouvoir, ont démissionné. C'est suite à l'exclusion du parti de 3 autres députés frondeurs mardi dernier. Hier, le président de l'Assemblée nationale depuis 1997, Nginzuma Ndama, a annoncé sa démission. Des élections présidentielles sont prévues cette année. Le président sortant, Ali Bongo Ondimba, a déjà annoncé sa candidature. L'opposition gabonaise met en doute sa nationalité, reprenant les thèses de Pierre Péan, journaliste français, qui affirme que le président gabonais a été adopté. Idriss Fall a recueilli la réaction du président Ali Bongo Ondimba, venu à Washington pour le sommet sur le nucléaire.
Encore une fois, je dirais tout simplement que lorsqu'on accuse, il faut apporter la preuve de ce que l'on dit. Il paraît que même M. Pierre Péan est allé au Nigeria, soi-disant, pour retrouver mes parents. Bonne chance. Bon, ils n'ont jamais apporté la moindre preuve de ce qu'ils ont avancé. Les tribunaux compétents, dont le tribunal de Libreville a classé cette affaire, et le tribunal de Nantes l'a fait. Maintenant, s'ils veulent aller attaquer l'État français, ils sont libres de le faire. S'ils veulent attaquer l'État gabonais, ils sont libres de le faire. Tout ceci montre quoi? Tout ceci montre que une absence de programme à proposer aux Gabonais, une absence sérieuse. Alors, on va essayer de divertir les Gabonais sur une affaire qui est montée de toutes pièces et qui est ridicule. Entre nous, mon père a eu beaucoup d'enfants. Et toute ma famille, vous croyez qu'ils supporteraient, ils auraient accepté de supporter tout ce qu'ils ont accepté. Les critiques, les campagnes de presse, et tout cela pour un étranger, alors que nous avons, mon père a eu beaucoup d'autres enfants. Pourquoi les autres enfants, à ce moment-là, n'auraient pas dit « c'est moi » Pourquoi mes parents, et j'ai encore un frère de mon père qui est vivant, et vous croyez qu'il ne défendrait pas plus les membres de sa famille si moi j'étais un étranger? C'est ridicule. Quant à ma demi-sœur, bon...
Là-bas, on dit que c'est une histoire d'argent et d'héritage.
Je ne vous le fais pas dire.
Le Gabon est-il une monarchie absolue ou une république? Si c'est une république, ne vous sentez pas gêné de succéder à votre père?
Mais je ne suis pas gêné de succéder à mon père. Je rappelle qu'on parle toujours de monarchie quand c'est l'Afrique. Alors que dans d'autres pays, il y a des familles, des membres de la famille qui sont arrivés au pouvoir sans qu'on parle de monarchie. Donc, et y compris ici aux États-Unis. Donc, et ailleurs. Donc, c'est une question qui est ridicule. C'est le peuple qui décide. Hein. C'est comme cela. J'ai présenté ma candidature au peuple gabonais. Le peuple décide. Si oui, on veut d'Ali. Oui, nous, on n'en veut pas.
Ali Bongo Ondimba, le président du Gabon.
La Voix de l'Amérique au Gabon sur Ogoué FM à Libreville.
Au Cameroun, l'hôpital militaire de Yaoundé est débordé. Il est d'une capacité de 200 lits, mais deux fois plus de soldats camerounais et tchadiens attendent d'y être soignés après avoir été sur le terrain dans le nord pour combattre Boko Haram. Un reportage de notre correspondant Moki Edwin Kinzeka, rendu par John Lindon.
Martin Chengwa est tombé dans une embuscade à Gachia. 6 membres de son unité de 10 soldats ont été tués près de la frontière avec le Nigeria. Ce jeune soldat, âgé de 26 ans, a été envoyé d'urgence à l'hôpital militaire de Yaoundé. Je suis confus par ce que j'ai vu. Beaucoup de mes camarades tués et j'ai eu la vie sauve. J'espère retourner. J'étais là-bas depuis décembre. L'hôpital reçoit des soldats camerounais et tchadiens qui ont été blessés sur le théâtre des opérations contre Boko Haram. Nagash Salim est un tchadien qui a la hanche fracturée et sa jambe amputée.
J'avais pris une balle au niveau de la poitrine. C'était à l'Imani, suite d'une embuscade, parce que sans l'état, c'est que moi, je ne suis plus en vie.
L'hôpital a 200 lits, mais accueille plus de 400 militaires et civils, dont Derek Langmi, un soldat camerounais qui a été encouragé par la visite du ministre de la Défense. Il nous a dit de garder le courage. Mon accident est arrivé à Wallach après une attaque. Deux jours après cette attaque, je suis tombé malade. Mes traitements ont commencé à Mora et Maroua et maintenant je suis à Yaoundé. Joseph Betty Assomo, ministre camerounais de la Défense, s'est voulu rassurant.
Il faut espérer. Les militaires que nous avons rencontrés, malgré leur état de blessés à des degrés divers, ont le moral. Ils sont habités par la conviction qu'ils ont fait leur devoir de militaire. Ils ont été très réconfortés par le fait que le chef de l'État, chef des armées, se préoccupe des soins qui leur sont prodigués et que tout est mis en œuvre pour qu'ils recouvrent leur santé. Laissez-moi vous dire que la plupart sont habités par une rage d'être rétablis et de rejoindre les rangs pour reprendre les combats.
Une nouvelle opération militaire est lancée cette semaine contre Boko Haram. Elle est baptisée Tentacule et va tenter de déloger Boko Haram de son bastion dans la forêt des Zambiza. Elle va impliquer des milliers de soldats camerounais et nigérians qui vont œuvrer de manière coordonnée de chaque côté de la frontière.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2.
L'opposition sud-africaine persiste et signe. Jacob Zuma doit partir car il a violé la Constitution et menti à la nation. Cette levée de bouclier fait suite à la décision de la Cour constitutionnelle, la plus haute juridiction de la justice en Afrique du Sud, affirmant que le président a violé la loi mère et doit rembourser les fonds publics utilisés pour remodeler sa résidence privée. Cependant, au niveau du parti majoritaire, le Congrès national africain, rien n'indique une possible action conforme aux revendications de l'opposition. J'ai joint pour une analyse Denis Kadimaï, le directeur exécutif de l'Institut électoral pour une démocratie durable en Afrique.
L'interprétation est claire, c'est que l'Afrique du Sud a encore cet avantage d'avoir une justice indépendante qui peut dire la loi. Il y a encore des mécanismes pour arrêter les abus de pouvoir. On l'a remarqué là où les partis politiques au pouvoir, c'est-à-dire le Congrès national africain, l'ANC, contrôlent les choses comme l'exécutif et le législatif. On a vu une tendance à imposer leur nombre, à imposer leur majorité. Mais quand ça va au tribunal, la Cour constitutionnelle a montré effectivement qu'elle est indépendante et peut décider même contre le président de la République.
Certains parlent de revers pour le président Zuma. Certains politiciens ont exigé son départ. Quelle est l'ampleur de cette mesure vraiment pour l'avenir du président?
Bon, l'ampleur, c'est très important. C'est une décision très, très importante parce qu'en fait, il parle de la violation de la Constitution. Donc, quelque part, dans ce qu'ils disent, ça ne s'arrête pas seulement au remboursement de l'argent dont il a indûment bénéficié, mais il y a aussi une dimension de violation de la Constitution que l'opposition est en train d'examiner et avec possibilité même de chercher à faire partir le président, faire ce qu'on appelle impeachment.
Une mise en accusation du président.
Voilà. Donc si on procède à cela, ça risque de le mettre en difficulté. Il faut dire aussi qu'au niveau de l'ANC, de plus en plus les gens sont mécontents de ce que le président est en train de faire. Cependant, comme toutes les initiatives contre les abus du pouvoir de Zuma ont été prises par l'opposition, alors l'ANC a tendance à protéger le président.
Est-ce que les velléités anti-Zuma sont sans avenir, l'ANC ayant la majorité?
Non, ce n'est pas sans avenir parce qu'au niveau de l'ANC, on se rend compte que le président était un problème pour eux. Tout ce qui se passe, ça salue le parti, et même le pays, sur le plan économique, est en train de subir certaines décisions que le président a prises. Parce qu'il n'y a pas que la décision de la Cour, il y a toute cette histoire sur Gupta, Kafami, qui contrôle les nominations au sein du gouvernement et à des postes très importants. Il y a eu beaucoup d'abus de la part du chef de l'État. Et le parti au pouvoir, malheureusement, ne peut pas réagir aux initiatives de l'opposition.
Est-ce donc le début de la fin pour Jacob Zuma?
Bon, c'est vraiment entouré des gens qui l'appuient à 100%, mais peut-être pas le début de la fin. Ça, on peut dire que quand on est dans les secrets des dieux, mais je pense que c'est une étape très importante par rapport justement à son maintien au pouvoir.
C'était Denis Kadima, directeur exécutif de l'Institut électoral pour une démocratie durable en Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. Notez notre nouvelle adresse voafrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages, photos et vidéos et vos commentaires sur voafrique.com. À tout de suite.
À la suite de l'insurrection populaire qui a mis fin au pouvoir de Blaise Compaoré, le Burkina, dans sa phase de transition, a vu à ses côtés les Nations Unies, l'Union africaine et la CEDEAO constituer en ce qui est le GISAT, groupe international de soutien et d'accompagnement de la transition. La transition est finie, mais le GISAT entend rester aux côtés du Burkina Faso dans une nouvelle appellation, groupe de soutien au Burkina. Le Premier ministre burkinabé a présidé ce vendredi la cinquième réunion du GISAT, qui est aussi la première de la nouvelle formulation GIS Burkina. Le compte-rendu de Zoumana Wonogo.
Une réunion du GISAT, groupe international de suivi et d'accompagnement de la transition, dans ce Burkina où la page de la transition est fermée. N'est-ce pas bizarre? C'est la question que nous avons posée à Mohamed Ibn Chambas. Il est coprésident du GISAT et représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour l'Afrique de l'Ouest. Suivons.
La transition est finie, mais les défis sont là. C'est nécessaire de maintenir ce groupe en tant que tel, comme un groupe international de soutien pour les Burkina Faso. Donc c'est nécessaire que la communauté internationale demeure fortement derrière les nouvelles autorités, le peuple burkinabé, voir comment nous pouvons continuer de soutenir ce pays pour un développement durable, la paix, sécurité.
La parenthèse de la transition est fermée au Burkina. Celle du GISAT, dans sa nouvelle appellation, groupe de soutien au Burkina, demeure. Tel est l'avis de Alpha Mamadou Barry, le ministre des Affaires étrangères du Burkina. On écoute.
L'objectif est que tout ce groupe-là en bénéficie de leur plaidoyer, de leur lobbying, de leur soutien direct pour mobiliser les ressources, c'est-à-dire qu'ils nous accompagnent jusqu'à la table ronde des bailleurs de fonds que nous espérons organiser d'ici la fin de l'année, une table ronde qui permettra de mobiliser les ressources pour le développement du pays. Comme vous le savez, les attentes au niveau du pays sont énormes.
Le Premier ministre burkinabé Paul Kaba Thiéba lance pour sa part un appel à l'endroit des partenaires du Burkina.
La conduite à bon port du processus politique au Burkina Faso l'a été grâce à la maturité et à la détermination des acteurs sociopolitiques burkinabés, mais également grâce au soutien indéfectible de la communauté internationale que vous représentez ici. À cet égard, il est important que les amis et partenaires au développement du Burkina Faso restent solidaires avec le gouvernement et le peuple burkinabé dans la nouvelle ère politique qui s'ouvre pour maintenant soutenir le groupe international de soutien au Burkina Faso.
Zoumana Wonogo, Ouagadougou, VOA Afrique.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h temps universel. Aujourd'hui, reggae music, reggaeton bien sûr, pour les amis qui adorent aussi la salsa. Et aussi nous allons continuer avec notre sujet de cette semaine, vos points de vue dans RM Show. Envoyez-nous aussi vos réactions par SMS au plus 225-58-92-8540. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show. Appelez-nous aussi au 001-202-619-3140. RM Show, c'est chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
I'm a sound.
What money?
Say I'm a sound.
Real cash money.
Say I'm a sound.
The hero of the ball in them figure spreads.
Tell me where the money cheated.
Help me find it.
Right and now the bills them want it.
Let them hide it.
Tell me how come with so much money I wrote. Can't find my trail alone. How come working on my slaves still can't find nothing to save. Working so hard from morning, just trying to get it right. Hopes and my dreams, them calling, keeping them in my sight. Every need is a struggle to achieve, every heart needs something to believe.
C'est la fin de cette édition. On remercie Lionel Gaïma qui a dirigé la mise en onde. À la console ce soir, c'était Aiden Outkou. Présentation Morgane Guériec et Chérubin Gabi Dorsil.
Ainsi va le monde aujourd'hui. On maintient la conversation sur Facebook. Faites-nous part de ce qui domine l'actualité chez vous. Suggérez des sujets de reportage pour nos magazines. Partagez aussi vos photos et vidéos. Et n'oubliez pas de visiter notre site internet voafrique.com.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM, Kledou FM Bamako, Raga FM Goma, 96.5 Fraternité FM, Parakou Bénin et bien d'autres encore, sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.